La Galatrice, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations dans le Tout-Puissant, merveilleux et puissant nom du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien à l'écoute de l'Heure de la Vérité. L'Heure de la Vérité, c'est votre émission de méditation profonde. L'Heure de la Vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. Et rassurez-vous, vous avez vraiment très bien fait d'être à l'écoute, surtout à partir de ce moment même. Nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous accorde ces merveilleux privilèges, non seulement d'être compté parmi les vivants, mais surtout de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Oui, comme je le disais tantôt, vous écoutez l'heure de la vérité. Cette mission se déroule sous l'œil très vigilant de son Excellence, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Quant à moi, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde une fois de plus de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Et nous sommes en train d'étudier les fausses doctrines. Oui, les fausses doctrines, les choses qui se pratiquent et qui sont même défendues dans beaucoup des milieux religieux, qui sont même enseignées, qui sont des dogmes, mais qui malheureusement ne trouvent pas les origines et les fondements dans la sainte parole du Dieu vivant. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur cette même lancée. Mais avant, nous allons faire un petit résumé. Nous avons vu le chemin du salut et nous avons vu que le chemin du salut, selon la sainte parole du Dieu vivant, ne passe que par Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Selon Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, et lui-même, Jésus-Christ, a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Et malheureusement, on a fait croire beaucoup de personnes que pour être sauvé, il faut qu'ils s'abonnent à une religion, il faut qu'ils soient membres d'un système religieux ou d'une religion pour être sauvé. C'est tout à fait faux, parce que aucune religion, aucun système religieux ne peut donner le salut. C'est Jésus-Christ seul qui donne le salut. Donc, si vous appartenez à un système religieux, sachez que vous avez aussi besoin, et surtout, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Oui, nous avons également vu le baptême à la lumière des Saintes Écritures, et nous avons lu beaucoup de versets qui nous ont dit ce que c'est que le baptême selon la parole de Dieu. Et nous avons également constaté qu'il y a beaucoup de choses qui se pratiquent autour du baptême, qui se disent autour du baptême et qui n'ont pas vraiment de fondement biblique. Baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême en lui-même ne sauve pas, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est pour cette raison que le baptême n'est réservé qu'à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Et le baptême est réservé pour les adultes et non pour les enfants. Et le vrai baptême, c'est dans l'eau. Parce que baptême veut dire plonger et immerger. Nous avons également vu Jésus-Christ qui est Jésus-Christ à la lumière des Saintes Écritures. Et nous avons vu que ce que la Bible nous dit concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ n'est pas forcément ce que nous voyons autour de nous. Il y a beaucoup de Jésus que l'on présente aux hommes qui n'ont rien à voir avec le vrai Jésus de la Bible. Oui, nous avons vu qu'il y a vraiment beaucoup de Jésus qui n'ont rien à voir avec le Jésus biblique. C'est d'ailleurs ce que la Bible a dit, que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous l'acceptez fort bien. Oui, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Donc c'est possible que l'on enseigne, que l'on propose des Jésus qui n'ont rien à voir avec le vrai Jésus de la Bible. Par exemple, le vrai Jésus de la Bible n'est plus du tout sur la croix. Le vrai Jésus-Christ est bel et bien mort à la croix pour nos péchés, mais il est ressuscité d'entre les morts et il revient très très bientôt. Oui, et il revient très très bientôt pour juger les vivants et les morts et surtout pour enlever son Église. Oui, son Église. J'y reviendrai tout à l'heure. Et toujours à la lumière des Saintes Écritures, nous avons commencé à parler des serviteurs de Dieu. Et nous avons vu que la notion de serviteur de Dieu, que l'on propose souvent aux hommes, n'est pas toujours ce qui est écrit réellement dans la Sainte Parole du Dieu vivant. Par exemple, nous avons lu beaucoup de versets qui nous disent clairement que tout le monde qui accepte le Seigneur Jésus-Christ devient automatiquement un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Donc, les clergés et le laïc que les hommes ont créés n'existent pas dans la Bible. Donc, d'un côté, les spécialistes de la religion et de l'autre côté, le peuple qui ne peut pas servir Dieu comme les autres, ce n'est pas du tout biblique. Oui, à la lumière des Saintes Écritures, nous avons vu que si aujourd'hui même, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, si vous l'acceptez, automatiquement vous devenez serviteur ou servant de Dieu. La Bible nous dit que vous devenez sacrificateur ou prêtre, parce que c'est la même chose. Oui, sacrificateur ou prêtre, c'est la même chose. Donc, la notion de clergé et laïc n'est pas du tout au biblique. Donc, dans l'Église du Seigneur, même si les hommes n'ont pas les mêmes dons, les mêmes capacités, n'empêche, ils sont tous des serviteurs et des servants de Dieu, et chacun a un rôle à jouer. Ils se complètent tout simplement, comme dans un corps. Oui, dans un corps qui est constitué de membres, tous les membres n'ont pas la même fonction, mais les membres sont complémentaires. Ils se complètent les uns les autres. Et la Bible dit, aucun membre ne peut dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Ou aucun membre ne peut dire, parce que je ne suis pas à telle position, je ne suis pas dans le corps. N'empêche, il est tout de même dans le corps. Si la main dit, je ne suis pas dans le corps parce que je ne suis pas la tête, n'empêche, elle est bel et bien sur le corps, même si elle n'est pas la tête. Donc, c'est pour vous dire que dans la maison de Dieu, tout le monde a sa place, tout le monde a un rôle à jouer. Il n'y a pas de spectateur dans la maison de Dieu. Et nous avons également vu à la lumière des Saintes Écritures que concernant les serviteurs de Dieu, beaucoup de choses ont été enseignées. Par exemple, nous avons vu que la théologie n'est pas biblique. Oui, ces écoles que les hommes ont ouvertes pour former les spécialistes de la religion, nous ne voyons pas une telle chose dans la sainte parole de Dieu. Nous voyons tout simplement que les enfants de Dieu étaient formés par les saints ministères que nous avons vus dans Éphésiens chapitre 4, à savoir apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Et ces personnes étaient directement appelées de Dieu. Et Dieu qui les a appelés se chargeait personnellement de les former parce qu'il savait pourquoi il les a appelés. Et ce sont ces personnes qui devaient maintenant aider les chrétiens à bien grandir dans la foi et surtout à manifester le don qu'ils ont reçu du Seigneur. La Bible dit que Dieu les a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour dire que chaque chrétien né de nouveau, habité par l'Esprit de Dieu, a un ministère dans la maison de Dieu. Et les saints ministères sont là pour les aider à bien mettre en œuvre le don qu'ils ont reçu et à bien exercer leur ministère. Oui, nous avons vu que on n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on est parti dans une école de théologie et qu'on a reçu un diplôme et des titres religieux. Nous avons vu que, à la lumière des saintes écritures, que l'ordination telle que nous la voyons de nos jours vraiment n'est pas ce que nous enseignent les saintes écritures, particulièrement le Nouveau Testament. Nous avons vu que les choses se passaient simplement, sans des fêtes pompeuses et le tapage que nous voyons aujourd'hui autour des ordinations. Oui, nous avons vu à la lumière des saintes écritures que les habillements spéciaux que les hommes portent aujourd'hui pour se distinguer du peuple, oui, que les soutanes et autres habits spéciaux que les gens se fassent confectionner pour se distinguer des autres, pour montrer qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Nous avons vu que ce n'était pas vraiment ce que la parole de Dieu recommandait, que les œuvres justes représentent l'habillement des vrais serviteurs de Dieu. C'est au travers de leurs œuvres que l'on reconnaît qu'ils sont vraiment des appelés. C'est au travers de leurs ministères que l'on reconnaît que cette personne est vraiment appelée de Dieu pour le servir comme pasteur, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste et comme docteur, et non pas son habillement spécial qu'il doit porter chaque jour ou bien dans les cérémonies religieuses comme nous voyons de nos jours. Nous avons également vu que, à la lumière des saintes écritures, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et pasteurs, Dieu les a donnés pour le corps de Christ et non pour un système religieux comme nous voyons de nos jours. Donc, un pasteur n'est pas le pasteur d'un système religieux ou d'une organisation religieuse créée par les hommes ou créée par lui-même. Mais il est le pasteur du corps de Christ. Dieu l'a donné pour le perfectionnement des saints. Et le saint ici, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Donc, il obéit tout simplement à la voix du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu lui dit, va rendre ministère à tel endroit, il obéit et il s'en va. Et aujourd'hui, nous voyons que lorsque quelqu'un dit qu'il est pasteur, c'est parce qu'il a une église ou bien parce qu'il a créé une église ou un système religieux. Lorsque quelqu'un dit qu'il est prophète ou apôtre, c'est parce qu'il a créé un système religieux. C'est parce qu'il a créé une organisation ou une entreprise qu'on appelle église, j'y reviendrai tout à l'heure. Et il est le chef, il est le fondateur et il gère cela comme son entreprise. Tout ça n'a rien de biblique. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, tous ces cinq ministères, oui, à savoir apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, eux, ils travaillent pour le corps de Christ. Ils n'ont pas besoin de créer un système religieux ni un mouvement religieux pour servir Dieu ou bien pour se distinguer ou bien pour montrer aux hommes qu'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu. Et ils ne doivent pas non plus servir des systèmes religieux comme des fonctionnaires tels que nous le voyons de nos jours. Beaucoup sont tout simplement comme des fonctionnaires dans les systèmes religieux, ce qui est tout simplement regrettable. D'ailleurs, j'ai lancé un appel, un vibrant appel à ces serviteurs de Dieu qui sont réellement appelés de Dieu, de sortir de ce système religieux et de servir le corps de Christ. Parce que le corps de Christ est très différent d'un système religieux. Et nous avons également vu que, à la lumière des saintes écritures, les églises bibliques étaient dirigées par les anciens et non par un pasteur. Et donc les églises qui sont dirigées sous forme pastorale, telles que nous voyons de nos jours, ce n'est pas du tout biblique. Oui, une église biblique est dirigée par les anciens et non par le pasteur. Cette organisation pyramidale que nous voyons de nos jours n'est pas biblique, à savoir à la tête, il y a d'abord le grand chef, le fondateur du système religieux ou bien de l'entreprise religieuse, et en dessous il y a, dans une assemblée locale, il y a le pasteur que lui il a établi, et en dessous du pasteur il y a les anciens, et ainsi de suite. Ce n'est pas biblique. Une église était dirigée par les anciens, associée bien entendu aux diacres et aux diaconesses. C'est ce que enseigne la Bible. Et d'ailleurs nous avons étudié ce que la Bible disait concernant les anciens, et nous avons vu que, puisque il leur revenait de diriger les églises locales, ils devaient être qualifiés pour cela. Par exemple, ils devaient avoir vraiment un bon témoignage, être irréprochable, et la Bible disait qu'ils devaient être particulièrement mariés d'une seule femme, donc pas polygame, et surtout, ils devaient être des gens matures dans la foi. Mais malheureusement, nous voyons dans nos systèmes religieux que c'est exactement le contraire. Parfois, il y a des polygames qui sont des anciens. Parfois, il y a des soulards. Parfois, il y a des menteurs, des escrocs, des jeunes convertis. Et c'est regrettable. Parce que quelqu'un qui est jeune converti, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, comment est-ce qu'il peut conseiller les gens en tant qu'ancien? Comment est-ce qu'il peut être un modèle pour les autres? D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai causé avec une dame. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes dans son foyer avec son mari. Et ils sont partis voir un ancien de leur église pour leur exposer le problème qu'ils avaient. Et ce problème tournait autour du maraboutisme. Oui. Et elle m'a dit qu'elle était très surprise de savoir que cet ancien était lui-même marabout. Et elle s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut retrouver un marabout à l'église et étant même ancien? Cette personne qui est censée être un modèle pour moi, comment est-ce que c'est possible? Et elle était tellement frustrée et elle a décidé de ne plus jamais entendre parler de ces histoires de l'église. Vous voyez un peu? Et c'est exactement ce que nous voyons de nous jouer autour de nous. Beaucoup de gens sont découragés en ce qui concerne les choses de Dieu parce qu'ils ne trouvent pas vraiment des modèles, ceux-là qu'on a placés devant pour les diriger, particulièrement les anciens. Nous voyons vraiment que l'Église a besoin d'une réforme profonde à tous les niveaux. Et c'est d'ailleurs le but de cette émission, l'aide de la vérité, c'est-à-dire étudier profondément certaines vérités bibliques et essayer de ramener ceux qui veulent être ramenés. Parce que Jésus revient très bientôt pour chercher une Église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte, irréprochable. Je l'ai dit, redit et je le redis encore, parce que si vous savez que vous appartenez à la véritable Église du Seigneur Jésus, vous deviez vous purifier, vous sanctifier. Et les fausses doctrines, les fausses pratiques sont comme des rides et des souillures qui souillent l'Église du Seigneur, qui vous souillent et qui ne vous qualifient pas pour être enlevés si le Seigneur Jésus-Christ revenait d'un moment à l'autre. C'est pour cette raison que si vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Et bien entendu, nous avons parlé des diaconesses et des diacres, c'est biblique. Nous avons vu que ces principaux titres sont bibliques, à savoir apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, diacre, diaconesse, ancien, c'est biblique. Mais nous avons vu que les révérends que l'on attribue aux gens par-ci, par-là, n'est pas biblique. Oui, les monseigneurs, archevêques, tout cela, archibishop, le général, il y a tellement de titres que les gens se donnent, pensant que c'est au travers de ces titres qu'ils seront honorés par les hommes, applaudis par les hommes. Tout ça, c'est charnel et il faut dénoncer. Et pour attirer l'attention de tous ceux qui portent ces titres pompeux qui ne viennent pas de la Bible, de se conformer à la parole de Dieu. Sinon, ils auront à rendre compte à Dieu. Oui. Et nous avons vu que les églises étaient dirigées par les anciens et non par un ancien ou par un évêque. D'ailleurs, je le disais la dernière fois que évêque, ancien, prébistre, veut dire tout simplement la même chose. Autrement dit, surveillant, tout simplement. Mais on a donné tout un autre caractère à ces titres. On pense que bishop, évêque, c'est plus grand qu'ancien, alors que c'est tout simplement la même chose. Très chers auditeurs, très chères auditrices, vous écoutez l'aide de la vérité. Je vous invite à rester tout simplement à l'écoute. Oui, vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. En parlant des titres religieux qui ne sont pas bibliques ou que Dieu condamne, oui, il y a aussi mon Père, révérend mon Père. Jésus a dit n'appelez personne sur la terre Père, un seul est votre Père, Dieu qui est dans les cieux. C'est ce que déclare la Bible. J'ai dit tout simplement ce que la Bible enseigne. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. Comme d'habitude, je vous invite à avoir de quoi noter et sur quoi noter, afin de prendre votre temps de vérifier ces versets bibliques à tête reposée. Parce que mon désir, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu, et non sur la sagesse des hommes, et non sur la théologie des hommes. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, où il est écrit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait ici qu'il y a un fondement. Et ce fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En passant, très chers auditeurs, très chers auditrices, vous tous qui écoutez, je voudrais vous poser une question. Est-ce que votre vie est posée sur ce fondement solide, le roc inébranlable, le roc des siècles, à savoir Jésus-Christ? Jésus est le seul roc. Et si votre vie n'est pas encore posée sur ce roc, il est peut-être temps pour vous, oui, de bâtir sur ce fondement solide, inébranlable, qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit que toute personne qui écoute sa parole et la met en pratique est comme cette personne qui a bâti sur le roc. Les vents vont souffler, les tempêtes vont souffler, le torrent va couler, il va pleuvoir, mais cette maison va subsister parce qu'elle est bâtie sur le roc. Donc si vous ne bâtissez pas votre vie sur le Seigneur Jésus-Christ, à tout moment, tout peut s'écrouler autour de vous. Oui, tout peut s'écrouler. Peu importe ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain, ce qui est le plus important, c'est que votre vie soit bâtie sur le roc, le Seigneur Jésus. Parce que Jésus, il nous donne la vie éternelle, une vie éternelle, une vie qui ne finit pas. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez être sûr que vous avez bâti votre vie sur le roc inébranlable. Même après votre passage sur cette terre, vous allez continuer à vivre éternellement auprès de votre Créateur. Alors que si vous négligez ce grand salut qui est gratuit en Christ, vous pouvez être président, ministre, gouverneur, préfet, sous-préfet, tous les titres honorifiques qu'il y a dans ce monde, mais après votre mort, vous allez vous retrouver de l'autre côté, très très loin de Dieu, après le jugement dernier dans les temps ardents de feu. Parce qu'il n'y a pas une place au ciel pour ces personnes, peu importe les titres qu'ils ont sur cette terre, en commençant par le plus pauvre jusqu'au plus riche, le plus sage jusqu'au ignorant. Mais ce qui compte, c'est que on bâtisse sur le Christ. Et voilà le fondement, le roc inébranlable. C'est pour dire que vous pouvez écouter la parole de Dieu tous les jours que Dieu a créé. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'avant toute chose, que vous bâtissez votre vie sur le roc. Et si vous voulez le faire, vous pouvez faire cette courte prière en disant tout simplement: Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur ou une pécheresse, mais je crois que tu es mort à la croix pour porter mes péchés. Je te confesse mes péchés, je te demande pardon. Et je décide d'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je prends l'engagement de te servir le reste de ma vie. Seigneur, merci de venir dans mon cœur par ton esprit. Merci de pardonner mes péchés. Merci de me sauver. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Une courte prière comme celle-là, avec foi et sincère, est exaucée par le Seigneur. Et votre vie est désormais sur le bon fondement, le roc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous revenons à notre texte, l'apôtre Paul dit: personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Amen. La parole de Dieu nous dit que Christ est d'abord le fondement. C'est pour dire que quoi? On ne peut pas servir Dieu si déjà on n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup veulent servir Dieu alors qu'ils n'ont même pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est mettre les charrues avant le bœuf. Si vous n'êtes pas encore convaincu que le Christ est votre Seigneur et Sauveur, faites quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu va juger tout ce que les hommes ont fait, tout ce que les hommes ont bâti, même en son nom. Le feu va éprouver tout ce que les hommes ont fait sur cette terre en son nom. Et la Bible nous dit clairement que beaucoup d'œuvres vont être détruites par le feu. Parce que ces œuvres n'étaient pas bâties comme cela se doit. C'est pour dire que quoi? Tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, ça peut sembler marcher. Ça peut sembler faire plaisir aux hommes. Les hommes peuvent acclamer, apprécier. Mais un jour, les gens vont être étonnés de voir que toutes ces choses-là seront détruites et consumées par le feu. Parce que ce n'était pas bâti selon Dieu. Ce n'était pas bâti sur le fondement que Dieu lui-même avait établi. Vous voyez pourquoi j'insiste? Le fait que c'est important de revenir à la parole de Dieu, de revenir au fondement biblique. Je sais que ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout évident. Oui, parce que l'homme a du mal à se défaire de certaines traditions, de certaines coutumes. Oui, qui se sont données, qui ont établi et qui deviennent des règles, même des dogmes. Mais si nous ne voulons pas courir les risques que ce que nous avons bâti soit un jour consumé par le feu, c'est mieux de bâtir sur le fondement biblique, sur la parole de Dieu, selon la vérité biblique. Dieu est en train de nous dire ici qu'il insiste sur la qualité et non la quantité. Malheureusement, parfois nous privilégions la quantité au lieu de la qualité. Parce que nous voulons faire plaisir aux hommes. Nous voulons attirer les foules. Nous voulons faire croire aux gens ou montrer aux gens que nous servons véritablement Dieu et que nous avons beaucoup de gens autour de nous qui nous suivent, alors que parfois nous ne bâtissons plus selon le fondement biblique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et dans le Psaume 11, le verset 3, il est écrit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Il faut avouer que les fondements ont été renversés dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser par la grâce de Dieu à l'Église. Je l'avais promis. Et en étudiant la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que les fondements ont été vraiment renversés, y compris concernant l'Église. Qu'est-ce que l'Église pour vous? Qu'est-ce que l'Église? Ça, c'est une très grande question. Et chacun peut avoir sa petite réponse. Mais que nous dit la Bible concernant l'Église? Avant toute chose, nous allons lire le premier verset du Nouveau Testament qui parle de l'Église, de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, où Jésus dit, « Moi, je bâtirai mon église. » « Moi, je bâtirai mon église, dit le Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Ce qui est déjà remarquable, c'est que Jésus ne dit pas, « Je bâtirai mes églises. » Jésus dit, « Je bâtirai mon église. » Donc, Jésus n'a qu'une seule église. Mais, qu'est-ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui? Des multitudes d'églises, des multitudes de systèmes religieux. Il y a même de la confusion. Jésus dit, « Je bâtirai mon église. » Aujourd'hui, les hommes se sont levés. Ils ont commencé à bâtir aussi des empires religieux. Et ils ont aussi appelé cela église. Mais tout cela n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la grandeur d'un empire religieux sur la terre, même si c'est la première religion, même si c'est la seconde, ainsi tout ce que vous pouvez voir autour de vous qui prospère, ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus. Dans Éphésiens chapitre 5, la dernière fois nous avons lu, à partir du verset 25, où la Bible nous disait que Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Christ a aimé l'église. Christ n'a pas aimé les églises. Christ a aimé l'église. Donc, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous comprenez avec moi que, à la lumière des Saintes Écritures, il n'y a qu'une seule église. Malgré le fait que nous voyons des multitudes d'églises et des systèmes religieux autour de nous. Et vous allez vous demander certainement, mais quelle église alors? Est-ce l'église catholique, protestant, témoin de Jéhovah, vraie église pentecôtiste, tout ce qui existe là dehors, adventiste, presbytérien, tout cela n'a rien à voir avec l'église biblique. L'église biblique, c'est tout simplement le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité et qui sont nés de Dieu et qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont eux qui forment l'Église de Christ. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », donc chaque jour, lorsque quelqu'un décide d'abandonner le péché et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est ajouté comme une pierre vivante sur cette église que Jésus-Christ est en train de bâtir. C'est pour cette raison que chaque membre ou chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ en tant que membre du corps de Christ fait partie de cette église du Seigneur Jésus-Christ. Et cette église du Seigneur Jésus-Christ n'a pas de nom. C'est une église invisible, constituée des vrais croyants nés de nouveau, habités par l'Esprit de Dieu. Voilà l'église selon la Bible. C'est pour dire que quoi? Beaucoup peuvent appartenir à des églises sur la terre, des églises que les hommes ont inventées et créées, mais ne pas appartenir à la véritable église du Seigneur Jésus. Dans Romains 8, le verset 9, la Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Parce que Dieu connaît tous ceux qui lui appartiennent. C'est lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on entre dans le corps de Christ et qu'on appartient maintenant à la véritable Église, qui est l'Église du Seigneur Jésus. Et si il n'y a qu'une église biblique qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, dont il est lui-même le fondateur et le chef. J'insiste, Jésus-Christ lui-même, qui est en train de bâtir son église, il est le fondateur et il est le chef. Malheureusement, il y a beaucoup de systèmes religieux qui ont des fondateurs et qui ont des chefs. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Quand une organisation soi-disant chrétienne ou je ne sais quoi, se dit église, mais a quand même son chef qui dirige cette organisation comme une entreprise commerciale, qui donne les ordres qu'on respecte à la lettre, même si ces ordres n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, nous voyons que ça n'a rien à voir avec l'église biblique. Parce que l'église biblique a un chef, un fondateur qui est Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, les hommes ont fondé et créé beaucoup de choses dont ils sont les chefs, les fondateurs, et ils dirigent les empires religieux comme une entreprise, c'est normal, c'est les choses, ce sont eux qui ont créé, mais ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si il n'y a qu'une seule église biblique constituée de tous les vrais chrétiens nés de nouveau, et que malheureusement, de nos jours, nous voyons des multitudes de systèmes religieux et on en crée tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? nous allons voir que l'origine des systèmes religieux remonte très très loin dans l'Ancien Testament. Tous les systèmes religieux que nous voyons de nos jours viennent de Babylone, de Babel. Nous allons lire dans Genèse chapitre 11. Ouvrez grandement vos oreilles parce que il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Je ne suis pas sûr que vous aurez encore l'occasion de comprendre cela ailleurs. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. À partir du premier verset, au verset 9 où il est écrit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéa et ils s'y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques qui sont les au feu. » Et la brique les servit de pierre et le bitume les servit de ciment. Il dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7, allons, descendons, et là, confondons les langages, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici une portion de Saintes Écritures qu'on peut lire et traverser, mais avec la révélation du Saint-Esprit, nous voyons aussi l'origine des systèmes religieux. Babel. Dieu avait donné un ordre formel à Adam et Ève. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais nous voyons ici, à un moment donné, certaines personnes, les hommes, se sont entendus et ils ont mis un projet en place. Ils avaient un projet à réaliser, une ambition. Cette ambition, c'était quoi? Bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel. Oui, bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et surtout, se faire un nom. Se faire un nom. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire, quel est le nom de votre église? Parfois, les gens se vantent par rapport à leur religion, à leur église. Moi, je suis de telle religion. Les gens sont même fiers d'exposer leur religion, de se vanter par rapport à leur système religieux. Et parfois, beaucoup ne peuvent pas se vanter par rapport à leur vie. Parce que parfois la vie que certains mènent laisse à désirer. Mais ils sont tout de même fiers d'être dans une religion. D'être ancien, d'être ceci, d'être cela, à chorale, chanter à la chorale. Pourtant ils sont des menteurs, des fornicateurs et autres. Mais ils se vantent quand même d'être dans une religion. Très reconnue, très célèbre. Faisons-nous un nom. Quel est le nom de ta religion? À un moment donné, les gens ont commencé à se faire des noms, à créer des systèmes religieux. Et ils ont choisi des noms. Et après avoir choisi ce nom, ils mettent tout en place pour que ce nom rivalise avec les autres noms. Et ils mettent tout en place pour que leur système religieux soit le plus reconnu possible, soit le plus haut possible. C'est pour cette raison que beaucoup, leur vision, ce n'est que bâtir leur empire religieux. ce n'est que faire que l'empire religieux soit le plus haut possible, soit le plus reconnu possible. Et pas étonnant que beaucoup de gens se convertissent jour après jour à des systèmes religieux et non à Christ. Parce que beaucoup croient que c'est en appartenant à un système religieux très connu, très réputé, qui sont les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Et parfois, certaines personnes, lorsqu'ils sortent pour évangéliser, ils font la promotion de leur système religieux pour amener les gens à venir gonfler le nombre de leur système religieux. Et au lieu de se soucier de leur salut. Parce que le plus important, ce n'est pas que quelqu'un vienne dans un système religieux, mais c'est que cette personne soit sauvée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Au lieu de faire des nations les disciples du Seigneur Jésus-Christ, on fait des nations les disciples du système religieux. Et même beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu ont été pris dans ce piège. Ils servent des systèmes religieux et non de servir le corps de Christ. Nous voyons que il y a vraiment beaucoup de choses que nous devons revoir et examiner de très très près. Faisons-nous un nom. Bâtissons-nous une tour dont le sommet touche le ciel. Nous sommes dans Genèse et exactement quand nous lisons, quand nous voyons autour de nous ce qui se passe, nous voyons que c'est la même chose qui se répète. Les hommes ont décidé de bâtir les empires religieux et de tout faire pour que cet empire religieux soit le plus haut possible, domine même les autres et surtout, si c'est possible, écraser même les autres qui existent déjà. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous invite à rester tout simplement à l'écoute. Écoutez l'aide de la vérité, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Très chers auditeurs, très chers auditrices, entre nous, depuis que vous lisez la Bible, est-ce que vous avez vu le nom d'un système religieux dans la Bible? Peu importe le nom, c'est tellement nombreux que je ne peux pas mettre à citer tout cela. Est-ce que vous avez déjà vu un jour ce nom dans la Bible? Alors, si ce nom ou bien les noms que nous voyons de nos jours, que les systèmes religieux ont, ne se retrouvent pas dans la Bible. Comment est-ce que les hommes sont arrivés à se faire des noms? L'origine, c'est Babel. Beaucoup de gens ne le savent pas. En chaque homme, il y a un peu de Babel, même s'il ne le sait pas. Il y a beaucoup de choses que nous avons héritées même sans le savoir. Oui, Dieu dit mon peuple périt faute de connaissances. Le manque de connaissances tue. Très chers auditeurs, très chères auditrices, restons dans Genèse chapitre 11. La Bible nous dit que le projet que ces personnes avaient, c'était de bâtir une tour dont le sommet touchera le ciel. Et nous avons vu que naturellement, tous les systèmes religieux se battent pour que les systèmes touchent le ciel. Autrement dit, être le plus haut possible par rapport aux autres qui existent déjà. D'ailleurs, vous n'avez qu'à étudier les noms que l'on donne au système religieux. Ces noms se rivalisent. Chacun essaie de donner un nom qui va rivaliser avec les autres, qui va concurrencer les autres. Et tous ces noms Curieusement, malgré le fait qu'ils parlent du même Dieu, ils lisent la Bible, ils parlent de Jésus, ils se divisent. Justement parce que c'est déjà un esprit de division, de rivalité. Et c'est ce que l'apôtre Paul va confirmer dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 10. Oui, 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 10, où il est écrit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Christ est-il divisé? Nous voyons déjà l'esprit de division, de dénomination que l'apôtre Paul condamnait. Certaines personnes se vantaient, moi je suis de tel, je suis de tel mouvement, je suis de telle église, je suis de telle religion. Beaucoup se vantaient. L'apôtre Paul dit, Christ est-il divisé? C'est un esprit de rivalité. Les systèmes religieux, c'est la rivalité. Ils se rivalisent. Mais pourtant, ils servent le même Dieu. Ils ont la même Bible. Ils prêchent le même Jésus. Mais ils se rivalisent. Parce que l'esprit qui est derrière ne vient pas de Dieu. Et toujours dans sa première lettre aux Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 3, à partir du premier verset, il est écrit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas à présent, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Nous voyons l'esprit des disputes, des rivalités, jalousie. L'apôtre Paul dit que c'est charnel, c'est marcher selon l'homme. Et les systèmes religieux, c'est selon les hommes. Ça peut être apparemment bien aux yeux des hommes, mais c'est selon les hommes, ce n'est pas selon Dieu. Cela revient à dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons bâties, mais que c'est l'homme qui a été à l'origine. Et on a grandi dans ces choses, on a entretenu ces choses, à un moment donné, on a cru que c'était biblique. Très chers auditeurs, très chères auditrices, nous allons retourner dans notre texte de Genèse, chapitre 11. Ces personnes qui avaient pour ambition de bâtir une tour dont le sommet touchera le ciel, la Bible nous dit que ils ont dit, faisons-nous des briques. Aujourd'hui, beaucoup sont en train d'investir dans les briques. Au lieu d'investir dans les pierres vivantes. Les pierres vivantes, ce sont les chrétiens nés de nouveau, habités de l'Esprit de Dieu. Comment comprendre que les gens se battent pour bâtir des temples, des milliards, des cathédrales, des milliards, alors que beaucoup de gens sont en train de mourir de faim, beaucoup de chrétiens misèrent? Mais ça ne dérange pas grand monde, mais on est prêt à investir autant que possible dans des briques, dans le ciment, au lieu d'investir dans le véritable temple du Dieu vivant, qui est le chrétien lui-même. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le chrétien est le véritable temple de Dieu. Et les serviteurs de Dieu investissent beaucoup plus pour bâtir ce temple qui est l'homme, qui est le chrétien habité de l'Esprit de Dieu, et non investi dans des briques Très chers auditeurs, ça c'est un autre sujet, j'y reviendrai en détail. C'est pour vous dire que il y a vraiment beaucoup de choses à réformer. Faisons-nous une tour dont le sommet touchera le ciel. Et pour bâtir cette tour, ils avaient besoin de briques et de ciment. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Les hommes d'un côté, Jésus de l'autre, les hommes investissent beaucoup plus dans les briques, le bitume, le ciment. Mais Jésus, lui, investit dans les hommes pour bâtir son corps, qui est tout simplement l'ensemble de tous ceux qui croient en lui sur la terre. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, vous écoutez l'heure de la vérité. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. Et nous allons vraiment voir que, à la lumière des Saintes Écritures, nous avons besoin de réformer beaucoup de choses, de réformer nos voies. Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte. Et il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, sainte, irréprochable. Et ceux qui veulent être enlevés par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra, ils doivent faire tout pour retourner à sa parole, afin d'être prêts. Et je tiens à dire que beaucoup de mes messages existent sur des brochures, sur des CD, sur des VCD et même des DVD et tout cela est distribué gratuitement. Ceux qui en ont besoin n'ont qu'à me contacter parce que Jésus a dit donner gratuitement. Donc normalement, la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ devrait être distribuée gratuitement. Là, c'est un autre débat. D'ici là, portez-vous bien, que la bonne main du Seigneur soit sur vous, surtout, surtout. N'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, à lui et rien qu'à lui seul, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt?